RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. Le 32-16 vous attend pour discuter, pour débattre en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les grandes gueules, Flora Guébali, l'entrepreneur de la transition écologique. Bonjour Flora.
Salut les GG, salut à tous.
Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie est là. Bonjour Jean-Loup.
Bonjour.
Et puis nous sommes avec Charles Consigny, l'avocat. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
Vous savez que la Coupe du Monde a démarré,
ah bon,
ça y est, c'est parti, c'était hier soir. Et on a la prime de match jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. C'est un jeu qui va vous permettre de gagner de l'argent. La prime de match, c'est quoi? C'est une mise de départ de 30 000 euros, une grosse cagnotte pour lancer la Coupe du Monde. Et à chaque but marqué, 500 euros s'y ajoutent. Depuis hier, 5 buts marqués, 5 fois 500. 2500, merci Jean-Loup Bonamy.
Je suis prof de maths aussi.
Ce qui fait donc 32 500 euros dans la cagnotte de la prime de match. À tout moment, vous pouvez gagner. Pour gagner, il faut vous inscrire en envoyant but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. On aura donc une banque de données de numéro de téléphone et ensuite à tout moment on pourra vous appeler et si vous donnez le montant de la cagnotte de la prime de match, eh bien l'argent est à vous et ça peut grossir bien évidemment à chaque match qui passe.
Il y a combien de matchs?
178 je crois. Non attends. 120 matchs je crois, quelque chose comme ça.
Donc ça peut grossir.
Ah bah t'imagines, ouais.
Énorme à la fin.
Ouais, quelque chose comme ça, je sais plus. 104 matchs, dont 78 aux États-Unis.
Donc imaginons une moyenne.
C'est dans ta mémoire ou c'était l'oreillette?
Ah non, c'est ma mémoire.
Bravo. Imaginons une moyenne de 2 buts par match. Ça peut bien rapporter. Bah,
là, c'est à 32 500. Vous envoyez but par SMS au 732-16. Vous vous inscrivez. À tout moment, vous pouvez être appelé. Vous donnez le montant de la cagnotte, de la prime de match. Et elle est pour vous. Et comme c'est du gain de jeu, c'est exonéré d'impôts. Nos sujets de discussion aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes qui propose d'envoyer davantage de migrants en région pour désengorger l'Île-de-France, les charges patronales qui pèsent et qui empêchent d'augmenter les salariés. D'abord, nous allons revenir sur la mort de la petite Liana. Les obsèques sont aujourd'hui, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la pression politique sur le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Pression politique chaque jour de plus en plus forte sur le ministre de la Justice. Il suffisait d'écouter hier Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Olivier Faure.
Parce qu'il a été ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité des Français, parce qu'il est en charge de l'institution judiciaire et que cette institution a manifestement failli, peut-être que l'honneur aurait appelé Gérald Darmanin à présenter au président de la République sa démission.
Parce qu'il défend aujourd'hui très mal son dossier et parce qu'aujourd'hui il donne le sentiment de ne pas avoir compris ce qu'il se passait, d'être dans un déni qui est lui un déni systématique pour un problème qui est lui systémique. Oui, Gérald Darmanin devrait démissionner.
Il y a des pays où quand quelque chose ne va pas bien ou qu'il y a un scandale, le ministre démissionne. Mais regardons le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est toute une politique. Il faut prendre le problème dans sa globalité. La question de la démission intervient là-dedans. Si ça change quelque chose. Si c'est pour continuer à faire pareil, écoutez, pour ne rien faire, gardons les mêmes.
Alors, il faut se souvenir, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a présenté ses excuses au nom de la justice. Il avait évoqué un immense échec, mais il reste en poste et visiblement, ça ne suffit pas.
Oui, parce que Jordan Bardella dit qu'il aurait pu reconnaître la faute de l'administration dans cette affaire en démissionnant, en présentant sa démission, ce qui ne veut pas forcément dire que lui-même est responsable personnellement de ce qui s'est passé. C'est vrai que les ministres aujourd'hui ne démissionne plus. C'était le temps d'avant où lorsqu'un ministre avait fauté, avait fait une erreur, ou lorsque son administration s'était mal comportée, effectivement, il endossait la responsabilité et présentait sa démission. Démission qui peut être refusée d'ailleurs par le président de la République. Ça aurait pu, à mon avis, le scénario aurait pu être le suivant. Je présente ma démission, Emmanuel Macron dit non, je te garde et à toi de réformer la justice. Alors Sébastien Lecornu, lui, a redit hier sa confiance dans l'action que le garde des Sceaux est en train de mener, mais il faut savoir que Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin sont très proches politiquement, ce sont des amis, et que Lecornu a besoin de Darmanin, qui est l'un des rares poids lourds de ce gouvernement.
Alors, est-ce qu'il doit démissionner, Gérald Darmanin? Est-ce qu'il peut tenir encore place Vendôme? Oui ou non, 32-16, Flora?
Mais on prend les mêmes et on recommence. Enfin, il va démissionner, on va mettre qui à sa place? On va mettre encore un ministre technique, parce que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, c'est-à-dire des ministres qui n'ont aucun poids politique et qui sont là pour tenir les ruines des institutions que le macronisme détruit depuis 10 ans. Excusez-moi, Emmanuel Macron, il a dit sur l'affaire Liana, la question de la confiance en nos institutions est désormais posée. Mais qui est en train de détruire nos institutions depuis bientôt 10 ans? C'est eux, en fait. C'est Emmanuel Macron, c'est Gérald Darmanin. Et cette affaire Liana, elle le montre à merveille. Il dit, la question, donc maintenant, il fait le constat de son échec après avoir passé 10 ans à détruire les institutions. Il y a une loi sur la table qui s'appelle la loi intégrale, qui a été écrite par 100 associations de terrain, des personnes qui savent, qui voient des victimes tous les jours. Cette loi, bah, que Gérald Darmanin, il fasse accélérer le calendrier législatif, puisque c'est dans son pouvoir. Que Emmanuel Macron, il fasse accélérer le calendrier législatif. C'est ça qu'on attend d'eux dans une situation aussi grave que l'affaire Liana, où il y a eu encore des nouveaux rebondissements qui, chaque jour, on apprend à quel point c'est grave. Comme si on avait besoin de ça, alors que une jeune fille, a vécu le drame qu'on connaît. C'est d'une gravité, c'est peut-être c'est peut-être le fait d'actualité le plus grave que on couvre depuis que je suis au Grande Gueule.
Mais est-ce qu'il doit démissionner ou non?
C'est pas le sujet.
Jean-Loup.
Alors, c'est un peu gênant pour notre ami Gérald quand même comme situation, parce que tout ça, c'est le résultat de dysfonctionnements majeurs de l'institution judiciaire, dont Gérald Darmanin en fait n'est pas responsable, parce que ces dysfonctionnements sont bien antérieurs à son arrivée à la place Vendôme. C'est des problèmes qui remontent maintenant à plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc lui, il y est pour rien. Mais là où il a une part de responsabilité, c'est depuis qu'il est au ministère de la Justice, il n'a entamé aucune réforme radicale pour régler ces problèmes qui sont parfaitement connus de longue date, que lui-même connaît bien. Il a rien fait, par exemple, pour débureaucratiser la justice. Voilà, il a pas dit on va tout remettre sur la table et on va faire des ruptures radicales. Voilà, politique de la tronçonneuse, comme dirait Charles. Voilà, il a pas tout remis sur la table. Ce que je peux comprendre, peut-être que c'est trop difficile, peut-être qu'il a pas les pouvoirs, peut-être qu'il y a des syndicats qui bloquent.
Vous oubliez de dire quand même, pardon, dans votre réquisitoire, maître, enfin les deux, parce que vous avez fait des réquisitoires, c'est que sous Emmanuel Macron, le budget de la justice a fortement augmenté, beaucoup plus que sous les quinquennats de Monsieur Sarkozy, de Monsieur Hollande.
C'est pas une question de budget global.
Oui, mais
c'est comme l'hôpital. C'est pas une question de budget global.
On nous explique qu'il manque de moyens,
non, mais,
etc.
Maître Truchot de la Cour des comptes, permettez-moi de vous dire que vous confondez deux choses. Tu confonds, un, le budget total du ministère qui, lui, est en augmentation, avec l'allocation locale, la distribution, la répartition des ressources.
Donc c'est la gestion de cet argent.
Voilà, la gestion de cet argent. Et le ministre Gérald Darmanin, qui par ailleurs n'est pas dénué de qualité, qui a des qualités, mais n'a rien fait pour qu'il y ait une réforme radicale qui fasse qu'on alloue mieux cet argent, qu'on répartisse mieux cet argent et qu'on débureaucratise la justice. Voilà, c'est...
Charles, il doit démissionner ou pas? Il aurait dû démissionner, parce que maintenant.
Je pense que pour lui-même, il aurait dû démissionner.
Au moins présenter sa démission, quoi.
Bah, et même démissionner pour de bon, ouais. Parce que présenter sa démission, en vrai, les Français ne comprennent pas. Tu pars ou voilà. Oui. Donc moi, je pense qu'il aurait
dû. C'est au président de la République de l'accepter.
Voilà. Mais je pense qu'il devrait.
S'il veut partir, il part.
Partir. Je pense qu'il devrait partir et que ça serait mieux, même politiquement, pour lui, en disant voilà, il y a une administration que je n'ai pas réussi à réformer parce qu'il n'y avait pas les moyens. J'assume cette responsabilité, contrairement à beaucoup d'autres qui se défilent, et moi, je démissionne. Et là, il prépare mieux son avenir. En fait.
Charles.
Et moi, je pense que ce serait trop confortable pour les vrais responsables de ce drame si le ministre servait de fusible en démissionnant comme ça. On passerait à autre chose et on ne traiterait pas le problème. Donc, pour moi, c'est pas opportun, non, qu'il démissionne. Je pense que ceux qui sont responsables de ce drame, ce sont les procureurs qui n'ont pas voulu donner de suite à cette plainte. Qui n'ont pas fait le rapprochement avec d'autres plaintes visant le même auteur, et les gendarmes qui ont envoyé paître au moins la mère d'une des autres victimes d'une autre victime,
la maman de Rosa.
De ce monsieur, victime potentielle, hein, de ce monsieur. Ce sont eux les responsables. Que bien sûr le ministre, il est garant de son administration, etc. Mais je pense que on s'offrirait une espèce de solution facile.
Mais alors donc on doit lui faire confiance pour changer un système.
On réglerait pas le problème.
Qui n'a pas changé.
Non, mais de toute façon, ils vont rien changer jusqu'à la prochaine élection. Ils vont rien faire. Donc là, il fait. Moi, je trouve que. Honnêtement, je trouve que c'est pas si mal ce qu'il fait depuis le déclenchement de cette affaire.
Il est très offensif.
En demandant au procureur.
Comme il fait de la politique.
Pas que.
Oui, mais c'est assez cynique. Donc le ministre vient présenter ses excuses au nom de l'institution, il parle d'immense échec, et puis il reste en poste. Enfin, si tu présentes tes excuses au nom de l'institution, excuse-moi, ce qu'il a dit. Hein.
Peut-être.
Il a dit c'est un immense échec et je présente mes excuses au nom de la justice.
Moi, je pense qu'il
derrière,
faut
comme le disait Jean-Loup, à son avis, tu t'honores à avoir un peu de panache. Enfin, c'est la fonction la plus importante. Où on se rend compte ça a dysfonctionné tout le long de la chaîne.
C'est assez rare dans ce pays.
Et puis tu donnes un peu d'honneur et un peu de panache à la fonction.
Voilà. Gérald, mais si tu nous écoutes.
Excusez-moi, c'est assez rare dans ce pays un sujet qui met tout le monde d'accord. Personne ne va dire ah non, les pédocriminels, on doit les laisser dehors. Moi, j'adore les pédocriminels, laissons-les en liberté. Ah, personne ne dira ça.
Ah bah, je suis pas si d'accord que ça.
Ah bon ? Une fois qu'on a dit ça, on est dans un pays où il n'y a pas de majorité politique. Bah, c'est parfait, on a trouvé un sujet qui met tout le monde d'accord. Pourquoi on n'arrive pas à légiférer ? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des résultats ? Parce que le but de cette discussion, ce n'est pas que va faire Gérald Darmanin de sa carrière, parce que personnellement, ça ne m'intéresse pas. Le but de cette conversation, c'est comment il n'y a pas une Liana supplémentaire dans notre pays. Pas une. Et en fait, depuis l'affaire Liana, il y en a eu d'autres, des enfants qui ont été violés. C'est statistique. Il y en a eu d'autres.
Flora,
il y en a eu même des dizaines d'autres.
Mais je suis pas sûr qu'il y ait un consensus.
Non, il n'y a pas de consensus.
C'est sûr que le RN, vu que c'est pas un immigré, le Jérôme Barella, ça les intéresse moins.
Non,
et ça c'est factuel aussi.
Mais ce que j'entends moi surtout cette semaine, c'est que le bon vieux clivage gauche-droite est revenu. J'ai entendu la droite faire des propositions de fermeté, castration chimique, perpétuité. Le Cornu d'ailleurs a repris cette proposition, un fichier public des agresseurs sexuels. Donc ça, c'est plutôt la droite. Et j'ai entendu la gauche dire non, c'est pas ça. Il faut faire de la prévention, il faut plus de moyens, Et d'ailleurs, on a fait nous des débats toute la semaine sur BFM TV avec des gens qui n'étaient pas d'accord sur les solutions. Je suis pas d'accord. Effectivement, il y a un consensus pour trouver ça désespérant et honteux, mais il n'y a pas de consensus sortir de ce système.
C'est précisément le sujet. Entre ces personnes de droite et ces personnes de gauche dont tu parles, il y a 100 associations. De 100 associations. C'est pas vrai. Qui sont sur le terrain et qui passent leur journée avec des enfants victimes. Et qui sont sur le terrain et qui disent voilà, il n'y a rien de mieux que le terrain pour savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il faut répondre à un sujet. Donc c'est ça, c'est là le problème de la politique aujourd'hui, c'est que la classe politique, autant qu'elle soit, elle est déconnectée du terrain et elle ne sait pas écouter. Le travail d'un politique, c'est d'être capable d'aller voir une association, d'aller voir un centre d'accueil, d'aller voir des parents de victimes,
c'est pas forcément les victimes qui ont les solutions.
De comprendre ce que tous ces gens-là disent et d'en faire une solution politique. Aujourd'hui, excusez-moi, quand Retailleau il parle de castration chimique, c'est hors sol. Là, on parle juste un truc. La France, c'est le quatrième pays du monde dans lequel il y a le plus de contenu pédocriminel qui circule. Est-ce que vous vous rendez compte, proportionnellement à la taille de notre pays, à quel point c'est affligeant?
Et Jérôme Barella à la France.
Les États-Unis, Info BFM TV, avaient signalé Jérôme Barella comme pédocriminel à la France.
On
sort quand même du
Internet.
Procès Mazan, ça aussi, il faut peut-être en parler, puisqu'il y a un an pile, il se passait à peu près la même chose avec une cinquantaine de personnes qui ont été condamnées. Et en fait, avant de parler de castration chimique, est-ce qu'on peut fermer le site Internet Coco? Il réouvre tout le temps, il réouvre sous d'autres noms. Bah oui, mais en fait, avant de parler de castration chimique, est-ce qu'on peut arrêter d'humilier les victimes qui vont au commissariat avec tout leur courage, sachant que c'est la double peine d'aller porter plainte? Est-ce qu'on peut arrêter de les humilier? Avant de parler de castration chimique,
Xavier, bonjour.
Qu'on peut croire les victimes?
Xavier,
c'est
bonjour.
Insupportable.
Fonctionnaire, est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin doit présenter sa démission ou pas?
Alors, oui, il aurait eu du panache à ça, mais qu'est-ce que ça aurait changé? Objectivement, ça aurait rien changé. Marine Le Pen l'a dit, je vais être d'accord avec elle, ça peut arriver une fois dans la vie. Si on l'a, on va en avoir un autre pendant les 10 mois qui restent, ça n'a pas d'intérêt. Oui, il y avait du panache sur le symbole, mais ça n'a pas d'intérêt. Je pense que le problème, il est plus dans l'organisation de l'état profond, de ce que l'on ne voit pas, en fait. Un ministre, il doit faire autre chose qu'être un influenceur. Et aujourd'hui, les ministres, et les politiques de manière quasi générale, se sont devenus des influenceurs.
Ce que vous appelez l'état profond, c'est l'administration, quoi.
L'administration,
réformer l'administration.
Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de cette espèce de spoil system qu'ont les Américains, Finalement, les ministres passent et puis vous apercevez que les directeurs d'administration sont les mêmes et les choses ne changent pas. Aujourd'hui, il y a une telle lourdeur et vous vous y trouvez confronté tous les jours quand vous êtes auto-entrepreneur, vous découvrez comment ça se passe à droite à gauche. Oui, il y a une telle lourdeur.
C'est le poids de l'administration le problème.
C'est la bureaucratie. Exactement. Et le problème de la bureaucratie, c'est qu'elle ne change pas. Les ministres et les politiques passent et en fait, les administrations restent. Tant que vous êtes dans ce système-là, ça ne pourra pas évoluer à mon sens. Donc que Darmanin démissionne ou pas,
ça ne changera rien.
Vous aurez demain un Dupond-Moretti bis, un tris, un quadris, peu importe, ça n'a aucun intérêt là de changer un ministre en plus à 10 mois d'une échéance où on devrait normalement décider de l'avenir du pays.
Mais pour aller dans votre sens, j'ai appris qu'il y avait une circulaire qui avait été prise le 31 mai 2021 qui incitait les procureurs à faire baisser le stock des procédures et donc à classer sans suite en fait dans les commissariats, les gendarmeries. Et on a même félicité les magistrats qui faisaient ça. Et en juillet 2023, c'était à l'époque Dupond-Moretti qui était garde des Sceaux, ils se félicitaient de cette baisse des stocks allant jusqu'à 30% selon les matières juridictions. Donc en fait, on ne gère pas. On ne gère pas les plaintes des victimes, on gère des stocks. On est dans la gestion de stocks. Et dans les stocks, eh bien, il y avait effectivement les affaires concernant ce Jérôme Barella, puisque plusieurs de ces affaires ont été classées sans suite.
Et puis, on a redécouvert du coup le nom du frère et le nom du père. Voilà.
Là-dessus, vous avez tout à fait raison, on a géré du stock. Mais l'époque du Dupond-Moretti, où il se targuait sur tous les plateaux télé d'avoir augmenté le budget, toutes ces choses-là. Donc,
vous en parliez
tout à l'heure. Il a augmenté le budget. Et dans la réalité, en fait, dans ce que disait tout à l'heure Flora, il faut aller au concret. Moi, j'ai discuté avec un procureur des Bouches-du-Rhône qui m'expliquait qu'en fait, ils avaient eu des stagiaires, peu ou prou, des gamins qui sortaient de Bac plus 5 en droit, pour venir, pour avoir du chiffre et faire du nombre. Dire voilà, on a augmenté de tant le volume, mais il n'y avait pas la qualité. Derrière, la réponse de la justice ne s'est pas améliorée. Donc, on a fait de la communication. Et si vous regardez, c'est le dernier point, si vous regardez le budget de la France, allez, que tous les Français le fassent, allez sur Internet, cherchez à comprendre le budget de la France. Où va notre argent finalement? Où va qu'on nous prend tous les mois?
Bon courage.
C'est illisible et cette illisibilité, elle est organisée par l'État. Je ne dis pas que c'est un complot. Je dis juste que ça arrange bien tout le monde, qu'on ne sache pas finalement où vont tous les impôts.
Je crois que l'État lui-même ne sait plus comment.
Xavier, vous avez raison, mais je vous remercie d'avoir été avec nous, Xavier. Bonne journée, à bientôt pour de nouvelles discussions, Xavier, qui est fonctionnaire, qui est du côté des Alpes-Maritimes, du côté d'Antibes. Darmanin, Gérald Darmanin, doit-il démissionner, oui ou non? On va regarder, on a posé la question, votre sentiment. Est-ce qu'il peut tenir? Vous dites non, il ne peut pas tenir à 55%.
C'est une courte majorité. Hein.
Courte majorité. Dans un instant, justement, la pression qui est exercée. À partir de lundi, les associations appellent à manifester pour dire plus jamais ça et pour demander le vote de cette loi intégrale. Est-ce que cette pression est bonne? Est-ce que vous pourriez y participer à ces manifestations tous les lundis devant les tribunaux? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, en direct sur RMC, RMC Story, on parle, on discute, on débat, et c'est avec vous, bien évidemment, que ça se fait au 32-16. Nous sommes sur les conséquences de la mort de Liana, les obsèques ont lieu dans la plus stricte intimité, aujourd'hui à Florence. On aura sans doute dans les heures qui viennent le résultat de l'autopsie. Le suspect numéro 1 est toujours en détention provisoire, Jérôme Barella, dont on a appris pas mal sur lui, sur sa famille. On a appris aussi qu'il avait été signalé pour ses contenus pédopornographiques par les services américains. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est la réaction. Et notamment, tous les lundis, les associations qui vont manifester pour dire plus jamais ça, elles vont manifester devant les palais de justice. Appel à manifester pour dire plus jamais ça, les violences contre les femmes, les violences contre les enfants. Demandez des moyens, est-ce que vous pourriez participer à ces rassemblements devant les palais de justice? C'est la question qu'on vous pose au 32-16.
Oui, ce sont des associations, les mêmes qui ont d'ailleurs appelé cette semaine à manifester devant les palais de justice, devant le ministère de la Justice. Bon, c'est une manifestation qui finalement avait été non autorisée, qui a quand même eu lieu place Vendôme, en partie. Et donc là, ils veulent recommencer tous les lundis soirs devant les tribunaux de France, devant donc le ministère à la justice, on verra si cette fois-ci c'est autorisé ou pas, pour pousser l'exécutif à mettre en place une loi cadre intégrale. Donc c'est une revendication de gauche, puisque c'est une loi qui est portée par la gauche.
Mais elle n'est pas portée par la gauche, elle est portée par une coalition d'associations.
Elle est portée par la gauche à l'Assemblée, c'est une loi, c'est pas les associations qui déposent des lois dans ce pays.
Il y a 110 députés qui ont signé, il y a plein de députés du Modem et de la Macronie à l'intérieur.
C'est une loi qui est majoritairement portée par la gauche.
Mais le Modem, c'est pas la gauche.
D'accord,
mais c'est une coalition transpartisane. Je suis désolée, c'est une coalition transpartisane.
Oui, non, c'est pas transpartisane, puisque ni le RN, ni les LR et une bonne partie de la Macronie n'en voulaient pas. Le gouvernement n'en voulait pas de cette loi. Là, ils sont un peu poussés à l'examiner, et c'est une loi qui est portée par la gauche, déposée par par des personnalités de gauche. Est-ce que cette loi éviterait l'affaire Liana? A priori, non. Est-elle utile? Peut-être. Mais ce qui m'interroge, c'est que c'est ces gens qui manifestent choisissent aussi leur cause. C'est-à-dire qu'on les avait pas vus notamment manifester devant les bureaux d'Anne Hidalgo lorsque le scandale du périscolaire est sorti. Donc est-ce que c'est une des manifestations très politisées ou est-ce que effectivement on doit tous y aller?
32-16 pour le dire au GG. Jean-Loup?
Écoute-moi, je suis toujours un peu surpris de certaines incohérences. Parce que récemment, je me promenais dans le 5e arrondissement de Paris, au quartier. Et j'étais justement
quartier latin,
et j'étais près du Panthéon. Et sur le Panthéon, il y a quelques semaines, qu'est-ce que je vois? Je vois une photographie géante de Robert Badinter qu'on s'apprêtait à panthéoniser. Bon, je rappelle que Robert Badinter, qui est devenu un saint laïque de la religion républicaine, est une personne qui a évité la guillotine à un tueur d'enfants, à Patrick Henry, que Robert Badinter, il a sauvé un tueur d'enfants, qu'il était contre la peine de mort, ok, qu'il était contre la perpétuité réelle, quand même plus gênant dans les débats qui nous occupent là, et qu'il est à l'origine du laxisme judiciaire. Voilà, il est à l'origine de la culture du laxisme judiciaire. Donc moi, je veux bien qu'on honore et qu'on panthéonise Monsieur Badinter, mais dans ce cas-là, il faut assumer. Il faut quand même une certaine cohérence. Tu peux pas être à la fois dans la culture du laxisme et de l'excuse et de Badinter qui défend Patrick Henry, un tueur d'enfants. C'est super, on va l'envoyer au Panthéon.
C'était il y a 40 ans. Oui, depuis, il y a des gardes des sceaux de droite.
C'est une logique culturelle.
Il était dans son rôle d'avocat.
Mais c'est une logique culturelle qui infuse jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'on panthéonise quelqu'un qui, entre les victimes et les tueurs d'enfants, a choisi. Il n'a pas été l'avocat de la famille de la victime de l'enfant tué. Et enfin, attends, j'ai pas fini. Deuxième point, c'est que Flora nous disait il y a un consensus sur la pédocriminalité et la lutte contre la pédocriminalité. Mais je crois qu'il y a 3 mois, dans cette même ville de Paris, il y a eu des élections municipales. Il y a une candidate qui avait fait de la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants, Rachida Dati, son cœur de bataille. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de perdre l'élection. Voilà, la majorité des Parisiens a préféré reconduire l'équipe Hidalgo qui avait complètement failli dans cette affaire plutôt que de mettre un bulletin Chikirou ou un bulletin Dati, c'est-à-dire les deux candidates qui quand même disaient il y a un gros problème.
Chikirou d'ailleurs qui a saisi la justice pour engager la responsabilité de la mairie de Paris.
On a préféré reconduire l'équipe Hidalgo qui avait complètement failli depuis plus de 10 ans sur ce dossier.
Si je puis me permettre, on mélange un peu tout là. L'affaire Liana, c'est pas une question de laxisme judiciaire. Jérôme Barella n'a pas été condamné à une peine de sursis pour une agression sexuelle. C'est plus une affaire d'inefficience du système.
Et de bureaucratie.
Mais non, c'est pas aussi. C'est ça. C'est pas une histoire de laxisme judiciaire. C'est que
la bureaucratie entraîne aussi un laxisme judiciaire.
Je pense pas. Non,
sans suite, ou quand une petite fille qui se plaint d'avoir été violée, on la prend pas en compte pour des raisons peut-être de bureaucratie, mais ça aboutit au fait que il y a un criminel qui reste en liberté. Donc il y a du laxisme.
Oui, mais c'est pas du laxisme, c'est qu'il y a c'est que le système n'est pas opérationnel. Mais si Barella, si le système avait été opérationnel, normalement. Vu ce qu'il avait sur le dos, je pense pas qu'il aurait fait l'objet d'un laxisme judiciaire quelconque, ce garçon. Le problème, c'est que le système n'est pas efficace. C'est ça le sujet. Et le sujet, c'est donc aussi.
Est-ce que du coup.
La mobilisation des agents et le budget de ce ministère.
Marteler le message tous les lundis devant les palais de justice, ça peut faire bouger les choses.
Message.
Avant de te donner la parole, Flora, on a René qui est avec nous, qui est dans le Nord, à Dunkerque. Bonjour René.
Bonjour.
Et vous avez déjà été manifesté, René?
Oui, voilà, je suis allée lundi dernier, c'était un mouvement spontané, donc je suis allée devant mon tribunal à Dunkerque, et j'ai assisté à des témoignages mais poignant au plus haut point. Et là, je n'irai pas lundi prochain. Je n'irai pas à cause de cette récupération politique par des mouvements féministes gauchistes qui pensent avoir le monopole de la... des solutions, alors que non, non, il faut pas que ce soit récupéré par des mouvements politiques. Bien sûr, il faudra des solutions politiques à un moment donné, mais ouais. Je trouve que M. Darmanin, actuellement, il n'a même pas à démissionner. Il est en train d'essayer de trouver des solutions. Alors, trouver des coupables, parce que des coupables, il y en a, faut pas se leurrer, mais il est en train d'essayer de trouver des solutions. Et je veux dire que la gauche, elle a quand même des questions à se poser avec la loi Taubira, avec l'action de M. Dupond-Moretti. Je pense qu'il y a des gens qui devraient...
Enfin, M. Dupond-Moretti, il était dans le même gouvernement que Gérald Darmanin. Je vous rappelle qu'il était ministre de la Justice lorsque Darmanin était à l'intérieur.
Alors, c'est ce qu'on appelle le même...
avec ce que dit René, Florent.
René, de quelles associations vous parlez en particulier?
En particulier, je ne connais pas le nom de ces associations parce qu'elles ne m'intéressent absolument pas. Mais je trouve que la récupération, justement, de ces mouvements gauchistes, je trouve que c'est malsain, en fait.
Je pense que vous faites erreur, René, parce qu'il y a la Fondation des Femmes, dont la mission est de financer la plupart des associations qui défendent les droits des femmes et des enfants. C'est une fondation qui est ce qu'on appelle d'utilité publique. C'est un statut très particulier qui fait que c'est un quasi-service public, donc ils ont un... quasi un devoir de neutralité, une exigence en tout cas de neutralité.
Et donc les mobilisations,
ils appelleront jamais à voter pour un ou un autre. Et le travail qu'ils font, c'est un travail de terrain avec les associations. Le problème, c'est que justement, ce que cherchent à faire certains politiques, c'est de diviser les personnes qui sont outrées par ces sujets. Faut pas tomber dans le piège, René. Si vous êtes allé à une manifestation et que vous avez été bouleversé par les témoignages, retournez-y, puisque en fait, ce qui compte dans cette affaire, c'est toutes les victimes. Vous savez, dans les manifs, je vais juste dire quelque chose. Dans les manifs, il y a énormément de personnes qui sont aussi des anciens enfants qui ont été abusés.
Bien sûr.
Et dans ces manifs, moi, j'y étais lundi, on les voit, les gens, avec leurs émotions, avec leur passé. Ça se voit qu'il se passe des choses. Et quand il y a autant de gens qui sont concernés par des violences, c'est que ça devient, je sais pas, le sujet de société le plus important, numéro un. Donc oui, moi bien sûr que j'irai les lundis dans les manifs. Maintenant, il y a une élection présidentielle, la solution elle est politique, et donc il va falloir aussi écouter les propositions des uns et des autres et avoir un vrai débat politique.
Alors, je raconte une anecdote, mais je ne vais pas citer de nom ni de lieu. Mais il y a une affaire récemment. Il y a un universitaire, voilà, quelqu'un qui enseignait à la fac. Et cette personne qui enseignait à la fac était un peu farfelue et s'est inventé une fausse médaille qui en fait n'existait pas. Cette personne a prétendu avoir reçu une médaille qui en fait n'existait pas. Vraiment, pas de violence. Pas de victime, personne n'est victime, évidemment pas de dimension sexuelle dans l'affaire, rien concernant des mineurs. Voilà, tu inventes une décoration qui en plus n'existe même pas. Il n'y a même pas d'usurpation d'un titre réel ou de faux, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur s'est saisi, conférence de presse, le procureur a fait une conférence de presse sur le sujet, garde à vue, le procureur s'est déplacé en personne, ce qui est extrêmement rare, pour accompagner les policiers lors de la garde à vue. Et tout ça s'est passé dans une ville où il y a quand même beaucoup de problèmes de narcotrafic. Est-ce que le procureur n'avait pas mieux à faire que de se faire mousser avec une conférence de presse, de faire mettre en garde à vue cet enseignant et d'accompagner les policiers? Moi, je trouve que quand même, quand tu regardes un certain nombre d'affaires, tu te dis en fait la justice a des moyens. C'est juste que plutôt que de les mettre là où il y a vraiment besoin, sur le narcotrafic sur les violences sexuelles contre les enfants.
Quatre juges d'instruction.
Ah, t'es un peu Charles pourra te dire que quand même dans l'affaire dite du procès libyen, on a mis quand même beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de magistrats pour arriver quand même à pas grand chose de résultat.
Moi, je trouve ça incroyable. Bruel,
ça choque tous les avocats, Bruel.
Quatre juges d'instruction. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
Un juge d'instruction.
On se répartir les dossiers, les plaintes.
Oui, il y en a pas tant que ça. Hein.
Oui, 26. Il y en a d'autres qui vont arriver.
Donc, oui, mais enfin, il y a 4 juges d'instruction. Si on prend les attentats de Paris, c'était 6. Sincèrement. Moi, je trouve ça même, c'est choquant pour les victimes anonymes. C'est-à-dire que les victimes anonymes, la maman de la petite Rosa, elle n'a pas eu droit.
Elle n'a pas eu droit à 4 juges d'instruction, quoi.
Le procureur.
Non, elle n'en a même pas eu un.
Elle n'en a même pas eu un, mais c'est le procureur de Nanterre.
Je ne comprends pas les personnes qui veulent, comme Jean-Loup, la peine de mort ou la
castration. Ah, j'ai pas dit ça.
Ah, t'as pas dit ça.
J'ai pas dit ça.
D'accord.
T'étais pas loin, quand même.
T'étais pas loin.
Ouais, mais je l'ai pas dit.
Les personnes qui veulent des mesures extrêmement fortes, comme la castration chimique ou la peine de mort, est-ce qu'elles ont lu toutes les études qui montrent qu'il y a que 2 à 5% des cas qui vont jusqu'à une condamnation? Parce que mettre la peine de mort ou la castration chimique sur les 2% de gens condamnés, ça réglera pas du tout le problème, puisqu'il y en aura toujours 98% qui seront pas condamnés.
Merci à René d'avoir été avec nous. Violence sexuelle, appel à manifester tous les lundis. Est-ce que vous irez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous comptez y participer? On va voir ce que vous en pensez. Ah ben non, non à 57, mais oui à 42. Alors 55-45 finalement. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Et puis à 10h, on regardera les charges patronales qui aujourd'hui empêchent d'augmenter les salaires. Vous venez en discuter avec nous au 32-16. Il est 10h-20. Les charges patronales, est-ce qu'elles empêchent d'augmenter les salaires? Ce sera le coup de gueule d'un patron en direct sur RMC et de l'ancien patron de Bricorama. Restez avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
J'ai les grandes gueules avec aujourd'hui Flora Gavalli, Charles Consigny et Jean-Loup Bonamy. Les 10h moins le quart, c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous et d'abord cette info RMC. Les aides grands rouleurs pour pallier la hausse des prix des carburants. Vous savez, les premiers versements auraient dû intervenir la semaine dernière. Eh bien non, ils n'ont toujours pas été versés. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Charles?
On ne s'en fout pas.
Jean-Loup?
On ne s'en fout pas.
833 000 demandes ont été déposées. Le dispositif a rencontré un très fort succès dès son lancement, explique Bercy. Est-ce que cette aide est victime de son succès, Charles Consigné? Sur 3 millions de grands rouleurs touchés. Hein.
Le but de tout ça était de gagner du temps et de ne pas baisser les taxes, mais de faire quand même quelque chose pour que les gens aient l'impression que le gouvernement faisait quelque chose.
Même ça, ça ne marche pas.
Donc, ils ont plutôt réussi leur manœuvre de ce côté-là.
Ce sera versé la semaine prochaine, nous dit-on.
Voilà, les lenteurs administratives. Mais bon, moi, je suis 833 000 demandes, c'est quand même beaucoup, hein.
Ouais.
Il faut vérifier là-dedans si tout le monde y a vraiment droit, par ailleurs.
Oh là là, il y a des critères très précis. Hein,
parce que oui, mais
15 km
à vérifier,
aller, donc, à 30 km aller-retour.
Parce que je pense qu'il y a pas mal d'administration, d'opportunistes aussi.
Après, il faut gagner, il ne faut pas dépasser un seuil de revenus. Enfin, bon, c'est compliqué, Flora.
Ouais, c'est une usine à gaz.
Bah, après avoir fait des chèques en blanc aux Français, l'époque où certains d'entre nous avaient reçu 100 euros. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Une nouvelle stratégie du gouvernement, on fait une fausse aide comme ça, on gagne du temps, on temporise, et peut-être que les 833 000 certains d'entre eux vont patienter grâce à ça, vont être temporisés. On temporise, quoi, c'est une politique comme une autre.
Écoutez, moi je pense que quand même le lien avec ce qu'on vient de dire avant sur les dysfonctionnements de la justice est assez évident. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement global des administrations en France, avec beaucoup trop de lenteur, beaucoup trop de bureaucratie, des usines à gaz de partout, et que voilà, on voit que les choses n'avancent pas et qu'il y a un dysfonctionnement bureaucratique global.
On enchaîne.
Les GG, l'ARCOM met en demeure Radio France pour sous-représentation des temps de parole du Rassemblement National en journée. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
J'en fous complètement.
Charles?
On s'en fout pas.
Près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN sur France Inter a été diffusé entre minuit et 5h59. Et plus de 70% sur France Info, pointe le gendarme de l'audiovisuel dans un communiqué. Radio France explique que ce déséquilibre lors du premier trimestre 2026 est simplement conjoncturel. Flora, pourquoi tu t'en fous pas?
Parce que c'est important de respecter les règles de l'ARCOM et que dans une démocratie, c'est grâce au débat que on gagne ou qu'on perd. Et empêcher le débat, c'est jamais une bonne solution, selon moi.
Charles.
Non, mais ça montre en fait le décalage quand même flagrant entre Radio France et notamment France Inter, puisqu'on nous explique que France Info est plutôt dans les clous, et le reste du pays. C'est-à-dire que je pense que si on fait un sondage dans la rédaction de France Inter, je crains qu'on n'ait pas du tout la même répartition que dans le reste du pays.
Mais dans toutes les rédactions de France.
Et sans doute...
Sarah Knafo est très très haute dans la rédaction de France Inter.
Sans doute dans toutes les rédactions.
Les journalistes sont quand même plus...
Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une radio de...
Il n'y a pas de journalistes au GG.
Service public qui n'en finit pas de se défendre d'être une radio de gauche, alors qu'en fait, manifestement... En même temps, elle s'en vante.
Amusant. Est-ce qu'il a fallu la commission à l'oncle pour réveiller l'ARCOM sur cette histoire?
Est-ce que Charles à l'oncle n'avait pas raison lorsqu'il disait qu'il y a un biais idéologique? Après, quand même, on peut reprocher à l'ARCOM, enfin, c'est pas l'ARCOM d'ailleurs qui a décidé, ce sont nos députés.
Exactement.
Des règles qui sont insupportables.
C'est une usine à gaz.
Hein, c'est comme l'aide carburant. C'est-à-dire qu'il faut, à la minute près, calculer les temps de parole. Vous savez qu'il y a des gens ici, à la seconde près, il y a des gens ici qui sont payés uniquement pour vérifier cela et pour être en conformité avec les lois que nos députés, nos chers députés votent. Et c'est vrai que c'est un casse-tête pour Radio France, c'est un casse-tête
c'est
pour
un
RMC.
Casse-tête pour nous.
C'est un casse-tête pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en plus, c'est hypocrite parce qu'on rediffuse des sons de politique la nuit pour pouvoir équilibrer et être ensuite rendre une copie propre. On en est là. En fait, ces lois sont tellement absurdes que nos réponses sont aussi absurdes.
Il y a surtout un gros problème, c'est que Internet n'est pas soumis aux règles de l'ARCOM.
Ça, c'est vrai aussi.
Donc, quand aujourd'hui, il y a des podcasts et des contenus qui font des millions de vues, les interviews chez Légende, Guillaume Play, ou chez Hugo Décrypte, ou chez Gaspard G, elles font des audiences de médias. Elles font les mêmes audiences que dans
même
plein de
plus,
médias.
Même parfois
beaucoup plus. Donc en fait, quand vous faites 2 millions de vues sur YouTube et que vous êtes sous, ou Thinkerview, ça fait des centaines de milliers de vues et que vous êtes pas contrôlé VS dans un média, tout le monde doit faire très attention, c'est injuste aujourd'hui.
Mais c'est normal que ces podcasts ne soient pas contrôlés.
Tant mieux.
On n'est
pas en Corée du Nord.
Il faudrait
qu'on redonne un peu de liberté aux médias traditionnels, qu'on leur foute
et
la paix.
On enlève de la liberté.
En tout cas, je comprends pas que les médias traditionnels se plaignent pas plus.
Surtout, attendez, parce que si demain Thinkerview invite un député Renaissance, je peux te dire que les audiences, elles sont divisées par 30. Hein.
En tout cas, je salue ici Malcolm, puisque c'est lui qui est chargé de superviser tout le temps de parole, et il le fait avec un chrono, et régulièrement, on a le tableau en nous disant,
bravo,
vous avez
Malcolm.
3 minutes, 2 minutes, 7 minutes, 12 minutes de telle ou telle partie à faire pour rattraper.
Et c'est vrai que parfois, pour raconter notre expérience, parfois on a un invité, la conversation est passionnante et on doit l'arrêter parce que son temps d'ARCOM est terminé. Et nous, en tant que GG, on peut être frustré parce qu'on a envie de continuer la conversation parce qu'elle est intéressante. Et en fait, vous nous dites non, ARCOM, c'est fini.
Ce sera ça tout à l'heure avec Richard Ramos, les GG.
Le député Modem.
Thinkerview, il n'a pas envie de recevoir Maud Bréjon et je les comprends.
Mais arrêtez, mais non.
On enchaîne.
Elle est venue les grandes gueules. Bon, il avait menacé de mort le maire de Rouen sur les réseaux sociaux. Un homme qui voulait mettre une balle à Nicolas Maillard-Rossignol, c'est ce qu'il avait écrit sur Internet, a écopé d'une amende de 200 euros et d'un stage de citoyenneté seulement. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
À moitié, je vous avoue, mais...
Jean-Loup.
Parlons-en.
Pile, je m'en fous, face, je m'en fous pas. Allez, je m'en fous.
Ah, il a vraiment tiré à pile ou face.
Ouais, j'ai tiré à pile ou face et ça a plutôt dans ce que je pense.
Flora, je ne m'en fous pas du tout.
Bon, l'homme était hier convoqué en composition pénale. C'est une mesure alternative aux poursuites permettant de condamner rapidement les auteurs d'infractions à condition qu'ils reconnaissent les faits. S'il avait été jugé par le tribunal judiciaire, l'homme encourait jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Bon, c'est les peines maximales, évidemment, mais bon, est-ce que c'est pas une toute petite peine à 200 euros d'amende et
Il avait écrit, il faut mettre une balle au maire et recommencer comme avant.
Oui,
c'est ça. 200 euros stage de citoyenneté, Florent.
C'est dingue, qu'il y a des peines maximales prévues par la loi, elles sont jamais atteintes. Non. Vous avez remarqué à chaque fois.
Oui, mais c'était.
Dans ce cas, il faut pas les mettre.
Mais en fait, c'est insupportable. On parle d'ici d'un élu. un élu qui fait de la politique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question, qui s'engage pour les autres au quotidien. Si cette personne, elle a des enfants, elle se sent pas en sécurité, comment vous voulez qu'après on ait une classe politique qui soit à la hauteur? Quand on se prend, moi, ma petite échelle, ma modeste échelle, je reçois des menaces de mort, de viol régulièrement. Est-ce que vous pensez que ça donne envie de continuer à s'exprimer, à donner son avis? Et alors, l'échelon supérieur, c'est l'échelon de l'élu. Les élus, c'est sacré, quel que soit leur bord. Et je dirais la même chose si c'était un
donc
élu RN.
Plus ferme.
C'est la fermeté maximale. Alors, on n'insulte pas un élu, on ne menace pas un élu. C'est comme les profs. L'affaire Samuel Paty, elle commence comme ça. Donc,
je pèse mes mots quand je dis ça. Mais alors, quand on dit que la justice.
Elle commence par un prof qui se fait menacer.
Mais quand on dit que la justice est quand même régulièrement laxiste.
Il se fait lâchement assassiner dans la rue.
En fait, les gens, en fait,
excuse-moi, pour moi, le mec, il doit aller 48 euros au ballon.
Mais bien sûr.
Ah bah,
mais bien sûr.
Il doit aller 48 euros en tôle, Charles.
Là, les 200 euros,
je mets une balle dans la tête, je mets une balle dans la tête et on recommence comme avant. À partir du moment où tu identifies l'internaute, tu le mets 48 euros au trou, quoi.
Ah, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord.
Mais les 200 euros, il les payera pas.
Je suis tout à fait d'accord.
Et le stage de citoyenneté, ça va être quoi, le stage de citoyenneté?
En même temps, je suis mille fois d'accord. Je me demande, en revanche, quel est le programme en matière pénale de Monsieur Maher Rossignol. Je suis pas sûr que
le maire socialiste de Rouen, qui soit, tu penses qu'il est un peu plus laxiste que ça?
Je pense que oui. Je pense que le programme, c'est on condamne pas, on réprime pas, etc. C'est le parti socialiste.
Faudrait qu'on
l'a porté plainte.
Mais je suis d'accord. Non, moi je suis pour une sévérité, d'autant que les élus sont particulièrement ciblés. Et de manière très excessive, on en fait un peu nos souffre-douleurs.
Oui, mais tout le monde est ciblé maintenant.
Ouais, mais en fait, il y a des gens qui sont sacrés dans notre société. Les profs, les flics, les maires, les élus, c'est sacré, on les touche pas en fait. Un prof, on l'insulte pas.
Si on veut que ça s'arrête,
un maire, on l'insulte pas.
Si on veut que ça s'arrête, une menace de mort, il faut taper fort, sinon ça continue.
En fait, de toute façon, c'est interdit.
Quand on n'en chope pas, justement, il faut en faire un exemple.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, la deuxième heure des GG. Faut-il envoyer plus de migrants en région pour désengorger l'Île-de-France? C'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Voilà un levier efficace, dit la Cour des comptes, que l'on envoie des migrants dans les centres en région. Ça soulagera l'Île-de-France. 32-16 pour en discuter avec les GG. À 10h20, les services de la police municipale qui seraient rendus payants lorsqu'elle encadre des événements comme des kermesses, des brocantes, des événements privés. Pourtant, les kermesses et les brocantes, c'est sur la voie publique. Mais on ferait payer la police municipale. Mais dans un instant, le coup de gueule de l'ancien patron de Bricorama.
Tout à fait.
Coup de gueule d'un ancien patron contre les charges patronales, les charges qui sont trop lourdes et qui empêchent de rapprocher le brut du net, bref, qui empêchent d'augmenter les salariés. Vous venez en discuter avec les grandes gueules, il est 10h05.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.